téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Les 9h40 sur France Inter, dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
C'est l'un des exercices journalistiques les plus anciens, les plus littéraires, les plus techniques aussi, les plus subjugants, il faut le dire, celui de la chronique judiciaire. De la plus insignifiante des comparutions immédiates au plus attendu des procès, la justice a deux vies. La première dans le prétoire, la seconde à travers les mots qui racontent une audience. Après le verdict, figurez-vous, on vide la salle, on éteint la lumière, magistrats, jurés et avocats rentrent chez eux. Le lendemain, vient la chronique publiée dans le journal, c'est elle qui restera. Bonjour Pascal Robert-Diard.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueuse judiciaire au Monde, l'Instant M a épluché chaque ligne de vos articles et notes de blog écrite sur le procès Francis Holm qui s'est conclu avant-hier. Vous arrivez tout juste de la cour d'assises de la Moselle.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Fox News is reporting some breaking news this morning that Roger Ailes has died. We don't have a lot of details about this. Drudge broke it. Not so long ago, but Roger Ailes, dead at the age of 77.
Roger Ailes, dead at the age of 77. Il est mort à l'âge de 77 ans. C'était le très emblématique patron de Fox News, chaîne d'infos conservatrice américaine. Il était proche également de Donald Trump. Il avait été récemment viré, souvenez-vous, on vous en avait parlé pour des cas très graves de harcèlement sexuel. Dans la foulée d'ailleurs, une autre affaire avait fait irruption au grand jour. Le présentateur vedette de Fox News, Bill O'Reilly, lui aussi écarté, lui aussi pour des affaires de harcèlement sexuel. Un scandale que la chaîne étouffait depuis des années.
Merci de nous avoir suivis. Merci aussi, un grand merci pour votre fidélité ces dernières semaines et ces derniers mois.
Suite à l'éviction de David Pujadas, présentateur du 20h de France 2, une assemblée générale a eu lieu hier après-midi à France Télé. Seront bientôt, probablement mardi prochain, soumises au vote deux motions de défiance. L'une visant Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. L'autre visant Michel Field, le directeur de l'info. Ce dernier avait déjà fait l'objet d'une motion de défiance votée il y a un an par ses journalistes à 65%. Alors, je vous recommande la lecture du Monde Magazine qui fait sa couve sur la communication selon Macron. C'est titré « Culture du secret et papier glacé ». Récit minutieux et édifiant, signé Laurent Tellot et Zineb Drieff, des relations très tendues de la nouvelle équipe présidentielle que celle-ci a entretenue avec les journalistes durant la campagne. L'heure est au contrôle, à la mise à distance, au verrouillage, aux insultes des journalistes aussi. Je vous recommande le passage, hein, qui concerne Yann Barthès, par exemple. Hier, levée de boucliers, hein, simultanément, dans une quinzaine de médias, BFM TV, Le Monde, Le Figaro, Le Point, également France Inter, qui adresse aujourd'hui une lettre ouverte à l'Élysée. Macron choisit les médias qui l'accompagnent dans son voyage officiel. Ça, c'est normal, c'est la coutume, c'est la pratique. Tout le monde ne peut pas entrer dans un avion présidentiel. Mais là où ça ne l'est plus du tout, là où ça ne s'est jamais fait, c'est qu'il exige de choisir tel journaliste plutôt qu'un autre au sein des rédactions. Et pour clore ce journal des médias, notre jeu du vendredi, rapprochez-vous de votre boîte mail. Je vous rappelle notre adresse, l'Instant M, tout attaché, l'Instant M à radiofrance.com. La Madeleine du jour, c'est la voix d'un grand chroniqueur judiciaire. Je voudrais que vous me disiez son nom. On l'écoute sur Paris Inter en 1960.
Disons que les attendus de ce jugement ont un peu surpris parfois. On y parle en effet d'une cour d'amour dont la poésie est exclue. On y parle des mensonges éhontés de Sorlu. Il semble qu'il ait eu bon dos, Sorlu. On s'étonne que M. Le Troquer, veuf, n'ait pas épousé Mme Pinaïef, artiste peintre et veuve. Je vous fais grâce du reste et cela vous suffit, j'en suis sûr.
Quelle fut cette grande voix radiophonique de la chronique judiciaire, l'Instant M à radiofrance.com, vous avez reconnu. Pascal Robert-Diard, il faut rien dire. Vous avez reconnu? Oui, ça vous dit quelque chose? Le procès des Baléros, ça vous dit quelque chose?
Ah
ça,
non. Donc quand ça... même pas, mais oui, j'en ai entendu parler.
Vous en avez entendu parler. Il y a une voix, vous, de la chronique judiciaire qui vous a marqué? Si c'est celle-là, vous ne devez pas en parler. Alors on ne dit rien?
Voilà.
On ne dit rien. Pascal Robert-Diard, lorsqu'il y a un mois, vous arrivez au palais de justice de Metz, en cette cour d'assises de la Moselle, vous ne pouvez pas ne pas avoir en tête 30 ans de chronique judiciaire qui précède celle que vous allez écrire pour votre journal Le Monde.
Francis Holm, le routard du crime, ce menton en galoche, cette bouche sans lèvres, cette silhouette décharnée. Il a tué 9 fois, officiellement, peut-être plus. Pendant 8 ans, il a arpenté les routes de France, semant la mort au hasard, tuant ici une femme âgée, ici un petit garçon, et là une adolescente. Avec une violence inouïe, sans aucun mobile, sans aucune logique. On a dit de Francis Holm qu'il était le premier tueur en série à la française, avec tout ce qu'il y a de mythique dans le personnage du serial killer américain. Il n'y a rien de mythique dans le parcours criminel de Francis Holm. Rien.
Voilà, ça c'était du Christophe Ondelat dans le texte, mais on avait le choix. Hein. Il y en avait des centaines de magazines, d'émissions et de portraits télévisés de Francis Holm. Forcément, vous vous dites, dès l'un de vos premiers papiers, hein, Pascal Robert-Diard, l'un des criminels les plus tristement célèbres de l'histoire judiciaire. Du coup, vous arrivez, il y a eu des milliers de chroniques judiciaires déjà écrites sur lui, des livres, des films de cinéma et de télévision. Ça compte ?
Ça compte dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ça m'ennuie. Oui. Ça m'ennuie profondément parce que je me dis, zut, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? En même temps, d'abord, moi, j'aime pas les criminels en série, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. J'aime mieux les criminels d'occasion. Et j'ai peur de ça. J'ai peur de cette espèce d'effet de répétition. Et en même temps, je pense que profondément, je fais confiance.
Et de fascination?
Non, aucune. Non, moi je fais confiance au procès. Je sais qu'à un moment donné, il y aura quelque chose qui sera pas l'histoire de Francis Holm, qui sera l'histoire de la vie d'à côté, qui viendra par les témoins et qui fera qu'il y aura quelque chose à raconter qu'on n'a pas entendu encore.
C'est exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous y alliez pour rencontrer Francis Holm? Puisque quand on lit tous vos papiers, en réalité, il est très peu là.
Mais d'abord, il a été très peu là pendant son procès. Je pense que s'il avait été effectivement très présent, s'il avait été interrogé, s'il avait beaucoup
parlé...
Alors,
il était physiquement présent tous les
jours. Il était tout le temps présent. Il y a des accusés dont je parle tout le temps parce qu'ils sont vraiment très présents. Lui, bon, il est... Effectivement, c'est un espèce de personnage qui est presque... Il est figé, en fait. Mm-hmm. Il a été figé pour l'éternité, c'est une formule idiote, mais il a été figé. On a ce visage, on a cette... Voilà, une fois
vous
que vous
dites,
avez écrit
dès
cette
qu'il
mimique,
se tourne, s'impose l'image tristement familière de ce visage anguleux que déchirent 2 lèvres fines comme cousues. Voilà. Chacun vos mots, mais dans la plume de chaque chroniqueur judiciaire, on a retrouvé cette description.
Oui, donc il est figé là-dedans. Donc effectivement, c'est pas de ce côté-là, et comme à partir du moment où on comprend qu'il ne va pas parler, en tout cas qui ne va pas dire plus que ce qu'il a dit sur cette affaire, en tout cas qui va pas dire c'est moi.
Il dit Montigny, c'est pas moi, ça il le répète sans cesse. Vous dites qu'il lâchera un petit peu plus tard, cette phrase qui est quand même très étonnante, tout le monde m'en veut, d'ailleurs chaque fois que je passe quelque part il y a un meurtre.
C'est magnifique.
Chaque fois que je passe quelque part il y a un meurtre.
C'est une phrase incroyable ça. Voilà, ça c'est bien. Je veux dire, ça c'est l'audience quoi. Mais autrement, effectivement, je ne regarde plus trop de ce côté-là parce que je me dis c'est pas de ce côté-là qu'il y aura quelque chose à raconter. Ça va être le reste, ceux qui vont venir à la barre.
Alors, la cour d'assises a ceci de particulier qu'il y a les jurés, 4 hommes et 2 femmes, et on sent que c'est très important dans vos papiers de cour d'assises que c'est très différent des autres audiences parce que vous placez le lecteur dans l'œil finalement. Dans l'œil, l'âme et la conscience des jurés. D'abord, vous faites cette remarque, le palais de justice de Metz a conservé la géographie du prétoire qui prévalait lorsque les jurés étaient seuls à délibérer sans les magistrats. Ils ne sont pas assis là-haut avec la cour, ils font face à l'accusé.
Oui, c'est quelque chose de très important, je l'ai vu dans ce procès-là et dans un autre procès. Et je pense que c'est symboliquement fort, c'est-à-dire que les jurés composent un groupe compact, solidaire, différent de la cour. Dans une cour d'assises ordinaire, bon, vous avez le président, les 2 assesseurs, et puis les jurés. Donc, la cour ne fait qu'un. Là, c'est intéressant parce que ça date de l'époque où les jurés étaient seuls à voter. Mmh. Et où la cour, le magistrat présidait, etc. Mais les jurés ne participaient pas au vote. Et cette espèce de place, il faut imaginer ça, ce procès a duré 3 semaines et demie. Ils sont installés en face.
Vous dites, c'est une confrontation muette.
Voilà. Ils ont pendant 4 semaines, eux, Ce sont les seuls d'ailleurs, parce que le public est sur le côté, enfin l'autre, en face de la cour est là. Et donc les seuls qui ont été confrontés pendant 4 semaines au visage de Francis Holmes, ce sont les jurés.
Ce sont les jurés. Et les jurés, ils vont assister non pas seulement à cette... Enfin, ils ne vont pas seulement être confrontés à Francis Holmes, ils vont assister au spectacle de la justice. Mmh. Et dans vos papiers, Pascal Robert-Diard, vous n'hésitez pas à mettre en scène ce spectacle. C'est-à-dire que vous utilisez quasiment des scénettes de théâtre. Alors vous dites, il faut imaginer les jurés, leur perplexité, leur incompréhension. Et hop, on entre dans la scène de théâtre avec des tirets et des répliques. Rangez ce plan, mais il est au dossier. Je refuse que vous le montriez. Donnez acte de votre refus. Je refuse de donner acte. Vous ne pouvez pas refuser. Et là, vous dites, les jurés ne savent plus ce qu'ils ont droit de regarder, d'entendre, de noter. 6 citoyens qui assistent médusés en silence au vertigineux spectacle de professionnels qui brouillent et souillent la justice. Dans le box, Francis Holmes s'ennuie.
C'était un moment, ça a été un moment vraiment terrible. En deux mots, dans cette affaire, donc évidemment, Patrick Dils a été condamné puis acquitté. Il est donc définitivement innocent. Et évidemment, cette présence de Patrick Dils, d'abord il est venu témoigner comme témoin et il est ressorti comme accusé, a été énormément utilisé par un certain nombre de gens, et la défense et les familles qui continuent de penser certaines familles qu'il est coupable, etc., pour semer le doute sur la culpabilité de Francis Holmes, ce qui est légitime de la part de la défense, d'une certaine manière, semer le doute, ça fait partie du travail de la défense. Mais on a atteint des limites, on a franchi vraiment des limites très, très sérieuses, et il y avait dans ce procès une espèce, je pense, de pression considérable qui s'est exercée sur le président de la Cour, qui n'a, à mon avis, pas su gérer au début.
Mais vous l'écrivez, que font clair. Le président, que font l'avocat général, rien, débordé, emporté, noyé dans un procès qui leur a échappé. On va juste faire une parenthèse. Vous, les chroniqueurs judiciaires, vous n'hésitez pas à avoir ce point de vue critique, éthique, morale. Oui, vous connaissez techniquement les rouages de la machine. Vous avez vu de grands et de très mauvais présidents, de grands et de très mauvais avocats.
Oui.
Et vous l'écrivez.
Oui. Bah oui, d'abord parce que ça fait aussi partie du travail. Je pense que, enfin surtout pour les magistrats, parce que les magistrats, enfin d'abord tous ces procès et tous ces jugements sont rendus au nom de la République, au nom de en notre nom à tous. Donc je pense que nous comme observateurs un peu professionnels, nous devons aussi être les témoins de la manière dont la justice fonctionne.
Une forme de contre-pouvoir.
C'est une forme de contre-pouvoir. C'est une forme de... Oui, on exerce un regard. Un regard, c'est forcément une forme de contrôle. Est-ce que c'est bien ? Je veux dire, moi, je suis la première. J'aime tellement ça. J'aime tellement les audiences et j'aime tellement la cour d'assises que je suis la première à être heureuse de pouvoir dire qu'un président est bon. Je veux dire, je n'ai aucun plaisir.
Mais vous retranscrivez aussi ce qui se passe. Voilà. C'est-à-dire que là, quand on commence à refaire le procès de Patrick Dils, alors qu'il a été acquitté, vous dites l'atmosphère se tend, laissant un profond sentiment de malaise. Et un peu plus loin dans votre papier, vous écrivez « la nausée gagne ». La nausée gagne.
Oui, parce qu'effectivement, je pense que là, on sent très bien qu'à un moment donné, le procès échappe au président. Mmh. Voilà. Et donc, il y a des limites à fixer. Il ne les a pas. Il n'arrive pas à s'imposer. Il n'arrive pas à imposer son autorité dans le respect du droit. Et les jurés sentent ça. Moi, je regarde toujours les jurés parce que.
On le sent. Dans vos papiers.
Mais parce que je trouve que c'est toujours les plus intéressants, parce que c'est eux, je veux dire, avec quelle image ils vont repartir. Et puis d'abord parce que c'est une fonction qui me fascine, mais vous imaginez un peu, vous êtes employé, vous êtes fonctionnaire, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes boulanger, etc. Pendant 4 semaines, on vous sort de votre vie, on vous dit, vous allez juger Francis Holmes. Alors que dans cette affaire-là, il y a 30 ans d'errement judiciaire, il y a déjà eu un autre condamné qui a été acquitté, on vous dit, c'est vous qui allez le juger. C'est merveilleux de regarder ça.
Alors, petit à petit, dans vos papiers, Pascal Robert-Diard, apparaissent les familles.
Ah.
Les familles. On écoute votre consoeur, Corinne Audouin, qui a suivi le procès pour France Inter.
Un procès apaisé dans cette affaire pourra-t-il se tenir un jour ? Avoir la réaction contrastée des familles, on peut en douter. Chantal Bénin, la mère de Cyril, en larmes de voir son combat judiciaire aboutir. Quand les Bécriches, épuisés et perdus, ne savent plus quoi penser, sinon qu'ils ne remettront plus jamais les pieds dans un tribunal. Metz, Corinne Audouin, France Inter.
Voilà, ça c'était Corinne Audouin pour France Inter. Là, je suis avec Pascal Robert-Dierre qui a fait ce même exercice à l'écrit. Je vous cite. Aux assises de la Moselle, un chagrin de 30 ans fait face à la cour, aux jurés et à l'accusé. Il sort à gros bouillon, il reflue, se retire et se répand encore, puis retourne se tapir. On ne se console pas de la mort d'un enfant de 8 ans, mais on vit. Ça, c'est ce que vous dites de la maman du petit Cyril. Et dans un autre papier, vous dites quelque chose de très intéressant. Et là, on sent que ça fait des années que vous assistez à ces procès. Vous dites, vu de l'extérieur, ils sont le front du chagrin. Vu de près, comme toujours, c'est plus compliqué. Le chagrin ne rassemble pas, il divise, il ronge, il sépare.
Oui, parce que au fond, je pense que quand j'ai vu cette femme qui m'a vraiment émue, enfin, je pense qu'elle a ému tout le monde. Et quand on voit ça, on se dit, voilà, les 30 ans, ils prennent un sens là. Parce que 30 ans avec un chagrin de la perte d'un enfant, ce qui m'avait impressionné, c'était effectivement que quand elle est venue en parler, à la fois il était là, c'est-à-dire qu'il était tout frais, comme parce qu'il ne peut pas passer, et en même temps, elle avait ce débit où elle racontait des choses extrêmement gaies, parce qu'effectivement, il a fallu depuis vivre avec. Et les 30 ans, je les ai vus. Pour moi, ce qui restera de ce procès de 30 ans, c'est ce chagrin de cette mère. C'est-à-dire que c'est à la fois le fait qu'il est là, il est comme s'il était d'hier, et en même temps, évidemment, il a été recouvert par le temps, et donc ça permet de le raconter, de raconter des scènes de des scènes légères comme elle les racontait. Pour les familles, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On le sait, je veux dire, dans n'importe quel, on sait partout dans la vie, l'épreuve ronge, l'épreuve divise. Et donc, la perte d'un enfant a effectivement, le couple n'a pas résisté, les autres enfants se sont écartés, parce qu'on l'imagine que cette femme, elle ne vit que là-dedans, quoi.
Et donc, justement, elle ne vit que là-dedans, mais en même temps, elle continue à vivre. Et dans vos papiers, il y a souvent une remarque, alors que ce soit le président qui parle, vous citez son rapport, que ce soit un inspecteur de police qui avait accompli l'enquête à l'époque, vous relevez le temps, justement le temps des verbes qu'on utilise. Ouais. Vous dites, le président raconte la mort des enfants au présent de l'indicatif.
Oui, parce que quand il a commencé son rapport, et ça c'était bien, j'ai trouvé que c'était bien, il a dit, c'est un dimanche après-midi, il fait beau, les enfants prennent leur vélo, ils vont sur le talus, ils reviennent goûter, donne-moi une pomme, dit-il, etc. C'était pas, il l'a fait juste, et c'était une manière, je pense, de dire aussi, notamment aux jurés, à tous ceux qui ne connaissaient pas ce dossier et qui allaient devoir le juger, voilà, 30 ans ont passé, mais l'histoire, elle est là, elle n'a toujours pas été résolue. Et je pense que c'est très important. Et de la même manière qu'effectivement, quand cet ancien inspecteur va parler,
et qu'il va dire, je vous cite, Patrick Dils, il était sur le talus et il avait tué les gosses, et vous relevez le plus que parfait de l'indicatif, c'est-à-dire une affirmation. Ouais, il avait tué les gosses. Ouais, tout est dans l'emploi du temps du verbe. Et j'ai remarqué aussi que vous avez le choix entre deux modes de récit. Le vôtre, derrière le talus de la rue Venizelo, c'était un royaume juste assez loin du regard des parents, juste assez près pour rentrer, goûter, ne pas rater le Bourvil à la télé. Et puis dans ce même papier, vous dites, il y a le major Percha qui présente son diaporama Dynamics, il l'appelle ça comme ça, 17h15, voilà ce qui s'est passé, 17h20, voilà ce qui s'est passé, tout jusqu'à 19h15, où, je vous cite, les policiers éloignent le père sur l'écran, s'affichent en gros plan les visages défigurés des deux enfants. Il y a deux modes de récit.
Oui, parce que la chronique, c'est d'abord énormément, c'est la cour d'assises, c'est de l'oralité. Donc il faut qu'on rende compte de cette oralité. Il y a des moments, moi j'accorde énormément de place aux échanges, je pense que c'est très important les guillemets, parce que c'est aussi comme ça qu'on vit et qu'on transmet à nos lecteurs ce qu'on a vécu nous et ce qu'on a entendu. Et puis après, il y a effectivement cette distance à mettre, parce que c'est un endroit d'observation de la vie. Et donc quand je parle du chagrin qui divise, je pense que je parle pas simplement du chagrin d'une femme qui a perdu son fils dans une cour d'assises, je pense que je parle de tous les chagrins, quoi.
Merci beaucoup, Pascal Robert-Dierre. Vos articles sont à lire dans Le Monde et sur votre blog, qui est en accès libre sur le site du journal. Nous avons un gagnant aujourd'hui qui se fait appeler Fredo, monsieur ou madame Fredo, je ne sais pas, et qui a reconnu le très grand Frédéric Potecher, évidemment. Pascal Robert-Dierre l'avait reconnu aussi. Merci à toute la belle équipe de l'Instant M, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella, Aurélie Boiseau et à Nicolas Delmas à la technique. Très rapidement, grand bien vous fasse.
Bonjour Saint-Devillers.
Salut Annie.
Quel sont les mots des plaisirs charnels et culinaires qui agitent votre imagination et vos sens? 01 45 24 7000.
Eh bien donc, voilà, les mots de la bouffe et du plaisir après les mots de la justice.